Vous êtes bien sur Radio Galère, une radio libre. J'insiste sur le terme, je le souligne et j'adresse ce soulignement à ceux qui nous gouvernent parce qu'ils n'ont pas une très très bonne idée ou une très bonne pratique de la liberté. On va s'en rendre compte tout au long de cette année et au cours de l'heure qui va s'écouler, on va déjà en avoir quelques aperçus. Bonjour à Roselyne qui est là.
Oui, bonjour, bonjour.
Bonjour Roselyne.
Bonjour à Habib qui est là aussi.
Bonjour, bonjour aux auditeurs.
Et on va essayer de faire un tour d'horizon de cette semaine qui fut une semaine folle, avec une densité d'informations, d'événements, de réunions largement au-dessus de la moyenne. Mais on sent effectivement qu'on est dans une période de grands troubles, de grandes transformations, de grands affrontements, de grandes remises en place, de nouveaux équilibres. Bon, donc effectivement, chaque journée apporte des éclairages sur ce qui est en train de se passer. Mais chaque journée ne se suffit pas elle-même, parce qu'elle est précédée par d'autres, elle est suivie par d'autres, et donc on a même des contradictions d'un jour sur l'autre, entre la position des uns et la position des autres. Alors, je vais essayer de nous y retrouver dans cet ensemble très, très plein de nœuds, de contradictions et de complexités, et puis de voyages, parce que ces messieurs qui prétendent nous gouverner, je vais dire ça comme ça, sont sans arrêt entre deux avions. Alors, on les voit un jour ici, un autre là, un troisième jour ici et tout, et on se demande même s'ils ont encore assez de repos pour pouvoir tenir des propos cohérents quand ils se réveillent ou quand ils sortent de 6 heures de vol avec du décalage horaire. Ben, ça, c'est une question que je laisse à des médecins. Il y a peut-être des médecins spécialisés dans le jet lag, comme on dit, ouais. Mais il y a des moments où on se dit, c'est pas possible qu'ils tiennent encore debout. Alors, ils tiennent encore debout, bon, mais quand ils tiennent debout, ils tiennent pas forcément des propos qui, eux, tiennent debout. Le personnage est là. Il est là pour le spectacle vidéo dont on nous rassasie. Est-ce que dans sa tête, il est bien clair? Est-ce qu'il a bien compris ce qu'on lui avait dit de dire? Est-ce qu'il a eu le temps de lire les dépêches des autres, les nouveautés? Je ne sais pas. Il doit vivre dans une espèce de tension dans la gestion du temps où chaque seconde apporte un élément nouveau. Chaque coup de téléphone, c'est une indication sur ce qui va se passer, etc. Donc, on a l'impression d'une très grande capacité ou incapacité d'un cerveau normalement constitué à arriver à prendre son souffle, réfléchir 5 minutes, dire quelque chose de cohérent et d'élaboré. Alors que là, on a souvent l'impression que c'est une réponse. Ah, il a dit ci, je vais lui répondre. Ah, mais il a dit ça, moi je vais lui répondre et tout. Une espèce d'enchaînement de dialogues incohérents, fous, contredits dans l'heure qui suit ou le lendemain. C'est là-dessus que nous essayons de travailler pour essayer de vous sortir du marasme dans lequel l'information officielle vous plonge. Et puis je pense qu'en plus elle est faite pour ça, c'est-à-dire on vous alimente au jour le jour avec une nouvelle importante, très très importante, si mettez-vous ça dans la tête et oubliez tout le reste. C'est pas vrai, il ne faut jamais oublier tout le reste. Tous les événements ont une histoire. Et ça, cette semaine, en a été très très riche. Je vais commencer par les célébrations, alors c'est pas forcément dans l'ordre de la semaine, mais pour vous rappeler que le 23 février, est une date anniversaire en Russie. Alors, qu'est-ce que c'est que le 23 février ? Bon, ouais. Eh bien, il faut savoir, et ça, effectivement, ça fait de l'histoire, que le 23 février 1919, ce qu'on a appelé la guerre civile en URSS, est fini. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir qu'entre la révolution d'octobre-novembre 1917 et cette date du 23 février 1919, toutes les armées du monde sont venues sur le terrain, à certains endroits de l'URSS, soit à l'ouest, soit à l'est, y compris en Sibérie, etc., pour essayer d'écraser le régime bolchevique. Bon. Ils n'ont pas réussi, et donc effectivement, les bolcheviques ont gagné, ils ont installé leur pouvoir. Ça s'est passé le 23 février 1919. Ce n'est pas devenu une date officielle tout de suite. En fait, c'est devenu une date officielle très précisément au mois de mars 1995. Avant, les historiens savaient. Mais pour que ça devienne une date, une journée officielle de commémoration de l'histoire de la patrie soviétique et de la patrie russe, c'est une décision qui a été prise par Eltsine, oui, parce qu'il avait des moments de lucidité, au moment au moment où Vladimir Poutine venait arriver dans son cabinet à Leningrad. Et depuis 1995, tous les 23 février, la Fédération de Russie célèbre. Les morts des guerres et célèbre sa survie, puisqu'au fond, il s'agit de ça. Le 23 février 1919, l'URSS dit « ça y est, je suis installé, je survis ». Alors elle survit dans des conditions extrêmement difficiles, 3 ans de guerre civile avec toutes les armées du monde. Hein. Il y avait des Français, on le sait, dans la mer Noire, il y avait des Japonais de l'autre côté, il y avait des Américains du côté de l'Est aussi, du côté de Vladivostok, il y avait des Tchèques, il y avait des Anglais, enfin il y avait tout le monde, il y avait tout le monde. Pas simplement des gens qui étaient en guerre avec l'Empire, ça c'était l'Allemagne et les puissances centrales, non, il y avait tout le monde, parce qu'ils considéraient que c'était le bon moment pour se partager le gâteau. Qu'est-ce que c'est que le gâteau russe? C'est encore le gâteau russe aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un gâteau, alors on en sait beaucoup plus aujourd'hui sur l'épaisseur des tranches et sur ce qu'il y a dans le gâteau, hein, du pétrole, du gaz, du titane, du plomb, du zinc, enfin tout ce dont on peut rêver, des terres à blé extraordinaires, hein, bon, tout ça, de l'eau, il y a de l'eau, qu'est-ce qu'il y a, beaucoup de fleuves en Russie, ouais. On ne le sait pas assez, alors on le sait moins parce qu'effectivement une partie de ces fleuves vont se jeter dans l'océan Arctique, on les connaît mal, mais en fait, à part il y a quand même la Volga et le Don qui se jettent au sud, mais tout ça fait partie d'un immense capital naturel que l'Empire russe avait déjà essayé de maîtriser. Je rappelle d'ailleurs pour la plus grande histoire que les Russes ont été les seuls qui ont traversé le continent eurasiatique, j'allais dire, dans le mauvais sens. Je veux dire par là, souvenez-vous, et vous avez tous entendu parler de Gengis Khan, de Tamerlan, etc. Tous ces hommes à cheval qui ont envahi le continent venaient de l'Est et ils allaient vers l'Ouest.
C'est ça.
Et ils s'arrêtaient où ils pouvaient selon les cas. Bon. Et en fait, les Russes, assez bizarrement, se sont dit, mais si j'allais voir moi dans l'autre sens, alors en passant dans des contrées difficiles, donc en plein nord et tout, et ils sont allés effectivement jusqu'à l'océan Pacifique. Et c'est pour ça que l'URSS et la Russie encore aujourd'hui est si grande, parce qu'ils ont eu le toupet, l'audace ou le courage, parce que c'était quand même assez difficile de traverser, quand on n'avait pas des bonnes doudounes et des bonnes protections, de traverser le continent dans le froid qu'il faisait. Et bien voilà, c'est ça la Russie, et donc c'est ça aussi qu'elle célèbre. Ils ont mis la main sur ce morceau de territoire, ils l'ont géré, ils l'ont aménagé, et ils continuent de le faire. Et donc, ce qui s'est passé le 23 février, donc la semaine dernière, c'est qu'il y a eu donc la cérémonie annuelle de célébration des morts de la patrie. Alors les morts de la patrie, c'est les morts bien sûr de cette période de la première guerre civile et surtout les morts de la deuxième guerre mondiale. Je rappelle, entre 25 et 30 millions de morts. Et il n'y a pas de famille qui n'ait pas un grand-père ou un arrière-grand-père qui n'ait pas mort dans cette guerre. Civil ou militaire mélangé, puisqu'il y a eu une guerre qui était une guerre militaire contre l'invasion nazie, et puis il y a eu au passage les morts civiles, c'est-à-dire soit des civils qui se rebellaient contre l'envahisseur nazi, soit effectivement les règlements, enfin les pogroms, les massacres gratuits de civils par l'armée nazie qui avançait et qui détruisait tout sur son passage. Ça fait partie de l'histoire russe. Alors, on ne veut pas le savoir, on fait comme si c'était le débarquement du 6 juin 1944 qui avait tout réglé, etc. On n'invite pas la Russie aux cérémonies en Normandie, on n'invite pas la Russie à la cérémonie pour la libération du camp d'Auschwitz alors que c'est eux qui l'ont ouvert. Ils n'existent pas dans l'histoire. Alors, en fait, ils existent tellement qu'ils sont là et qu'on est en train d'essayer de trouver comment... Enfin, on n'essaye pas d'ailleurs. On est en train d'essayer de mal se positionner par rapport à eux. Et j'insiste là-dessus parce que le propos a été tenu par un personnage qui est connu, mais sans être une célébrité, qui est un économiste des États-Unis, états-unien, qui s'appelle Jeffrey Sachs, qui a servi, alors, c'est pas du tout ni un socialiste ni un révolutionnaire, mais c'est un bon économiste qui donne des conseils à qui veut l'entendre, il en a donné à qui voulait, il en donne au président des États-Unis, mais il peut en donner au premier ministre anglais, il est compétent dans cette matière-là. Et ça l'amène, cette compétence, à rencontrer beaucoup de gens et à connaître concrètement, à avoir eu l'occasion de discuter avec le secrétaire d'État au Trésor de Obama, et puis avoir discuté avec le personnage qui gérait les finances sous le temps d'Eltsin, etc., etc. Il a un carnet d'adresses, comme on dirait, dont il ne se sert pas beaucoup, mais il a vu beaucoup de monde en tant que conseiller pour les affaires économiques. Et il était invité, c'était donc lundi dernier, au Parlement européen. Il était invité au Parlement européen pour faire le point de la situation selon lui. Alors c'était très très intéressant parce que ce qu'il a dit, M. Jeffrey Sachs, il a dit en substance, rendez-vous bien compte, alors il s'adressait à des députés européens qui, vous le savez, alors le Parlement européen, j'insiste pas trop là-dessus, mais passe son temps à voter des motions hostiles à la Russie, pour la défense de Zelensky, etc. Tout ça, vous savez. Et il leur a dit comme ça, réfléchissez bien, parce que les États-Unis, on va en parler tout à l'heure, les États-Unis sont loin. Après tout, s'ils ne s'intéressent plus à vous, on va en reparler, vous serez toujours les voisins de la Russie. Ça sera toujours votre voisin d'à côté. Et donc, une bonne réflexion consisterait à dire comment on vit avec le voisin. Et il leur a même dit, allez discuter un peu à Moscou pour penser à votre avenir plutôt que de faire ce que vous êtes en train de faire. Alors ça, c'était pas Macron qui le disait, mais c'était un des parlementaires européens qui était là. Et il insistait sur une chose suivante qui est très très importante pour la suite des opérations, sur l'état de la guerre nucléaire. Il a dit, vous savez, tout le monde parle d'une possibilité de troisième guerre mondiale avec utilisation des armes nucléaires. Il a dit, souvenez-vous, parce que là aussi, il faut faire la leçon au Parlement européen, il arrive des gens, enfin, il arrive en général, vous le savez, au Parlement européen, un peu des recalés des élections législatives nationales. C'est souvent ça. Celui qu'on n'a pas réussi à faire élire député dans tel ou tel département français, on le met sur la liste du Parlement européen et il fait ses classes, il apprend le métier ou il fait rien. D'ailleurs, il y en a qui font rien. Bon, c'est bien payé, c'est tranquille. Et donc, il leur a donné une espèce de leçon. Il leur a dit, souvenez-vous, réfléchissez à cette question de l'armement nucléaire, puisqu'on dit, enfin, ça arrive assez souvent, même toutes les semaines, on va dire, attention, danger de Troisième Guerre mondiale, et quand on dit Troisième Guerre mondiale, on dit arme atomique.
Ah, ouais.
C'est tout à fait clair, puisqu'elle aurait lieu entre des gens qui ont l'arme atomique. Bon. Il dit, souvenez-vous qu'en 2002, un certain George Bush s'est retiré d'un traité de contrôle des antimissiles, c'est-à-dire de la capacité de riposter à un premier tir. Ça, c'était la base de la dissuasion, c'est-à-dire dans la mesure où l'URSS, la Russie, 2002, la Russie existait, mais la traité datait d'avant, dans la mesure où l'URSS et les États-Unis étaient d'accord pour mettre au point un système de missiles antimissiles, celui qui tirait le premier n'arrivait pas à toucher la cible puisque le système antimissile empêchait le missile d'arriver.
Ouais.
Alors il a dit, ça c'est déjà une première découverte, ce système n'existe plus. Bon. Donc il y a des risques. Et il a ajouté, si vous installez des missiles de portée moyenne quelque part en Pologne, et pas aux États-Unis, vous êtes à quelques minutes de vol de Moscou. Mettez-vous bien ça dans la tête. Deuxième point, et il insiste là-dessus, en 2019, ça c'est un certain Donald Trump qui l'a fait, Donald Trump s'est retiré d'un traité qui s'occupait du contrôle des armements nucléaires de moyenne portée. C'était exactement les armes nucléaires de moyenne portée pouvant être tirées depuis la Russie sur, par exemple, l'Allemagne ou la France, ou depuis l'Allemagne, par exemple, sur la Russie. Ce traité n'existe plus, parce que M. Trump a retiré la signature. Et il a dit à ses députés européens, « Messieurs, réfléchissez bien sur le fait que vous n'avez plus aucune protection. » Mais les Russes non plus. C'est-à-dire que les Russes, ils sont inquiets parce qu'effectivement, toutes ces protections-là qui ont assuré la survie de l'URSS jusqu'en 1991, puisque personne n'a tiré sur l'autre, il n'y a plus de protection. Donc vous êtes à la merci d'un geste fou. Et plus vous approchez vos missiles de la frontière russe, plus la situation se tend et plus la Russie s'inquiète et elle a raison de le faire. Voilà. Alors, il n'est pas pro-Poutine, ni anti-Poutine, ni rien du tout. Il leur a mis ça sur la table, il leur a dit, regardez bien la situation, la guerre nucléaire, elle est potentiellement possible parce que les protections qui avaient été mises en place du temps de la guerre froide n'existent plus et qu'on est à la merci de la moindre provocation. Regardez bien ça, voilà. Donc je voulais donner ça comme contexte général à ce climat de guerre. Ça, c'était M. Jeffrey Sachs au Parlement européen. Et puis, bien sûr, il y a eu la fameuse réunion, alors dont on a à peine parlé mardi dernier, la fameuse réunion de Riyad.
Ouais.
Riyad qui nous a été présent. Alors, enfin, je rappelle le contexte de la réunion de Riyad. Donc, c'est le prince MBS, comme on dit, Ben Salman, qui reçoit un petit comité. Il s'agit d'une salle pas très très grande où il y a trois personnes d'un côté, trois personnes de l'autre, ou quatre, pas plus. Hein, donc, une petite délégation des États-Unis avec à sa tête le ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État Marco Rubio, et de l'autre côté
face,
une petite délégation aussi menée par Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. Pas de souci. Et puis les deux Saoudiens au fond, hein, qui sont un peu les arbitres et les autres de cette réunion.
Enfin, ils sont présents.
Mais ils sont là. Ils sont
alors
là,
les Européens, ils ne sont pas
là. Voilà. Alors, ce qui se passe là, et là, il faut insister là-dessus, ce n'est pas du tout la façon dont on l'a présenté. Ça n'a pas été une négociation sur la fin de la guerre d'Ukraine. Pas du tout. Alors, qu'ils aient parlé dans les couloirs après, parce que, alors, ce qu'il y a d'important à dire, c'est que le commentaire de Lavrov, qui est une première du genre, Lavrov est un monsieur hein, qui a du métier dans la diplomatie, et il a dit, pour une fois, ils nous ont écoutés. Ils nous ont écoutés. Ça veut dire que ça fait des années, et ça explique tout le contexte de la guerre d'Ukraine et tout, qu'ils ne nous écoutent pas, qu'ils font ce qu'ils veulent, qu'ils avancent, qu'on leur dit calmez-vous, qu'il faudrait qu'on se voit, qu'on réfléchisse, et ils veulent pas, ils avancent, ils viennent nous marcher sur les pieds, on leur dit, vous nous faites mal aux pieds, remarcher encore sur nos pieds, ça nous fait encore plus mal, etc. Bon, et ils nous ont écoutés. Et de quoi ont-ils parlé? Et c'est là qu'il faut bien rectifier les choses par rapport à ce qui a été dit dans les médias. Ils ont parlé de la qualité des relations diplomatiques entre la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique. La qualité qui est, au moment où ils parlaient, qui était exécrable. C'est-à-dire, on ne vous écoute pas, on ne se parle pas, nos ambassades sont quasiment vidées, il n'y a plus personne. Symboliquement, il y a encore un monsieur avec un drapeau, mais c'est plus rien. Il n'y a plus de relations diplomatiques normales. Hein. Donc les États-Unis ont exclu la Fédération de Russie du champ de la diplomatie internationale. Tout ça a sorti d'une quantité de sanctions renouvelées à longueur de temps. Bon, mais c'était ça.
Et une ouverture.
Ah, exactement. Et donc, nous allons rétablir des relations diplomatiques normales. Donc, on va envoyer du personnel à l'ambassade des États-Unis, de Russie à Washington. Vous allez envoyer du personnel à l'ambassade des États-Unis à Moscou. Parce que pour l'instant, il n'y a plus personne. Ça ne fonctionne plus. Or, on a besoin, dans la mesure où, je le rappelle, enfin, il le rappelle, je parle à sa place, nous avons chacun des armes nucléaires très très dangereuses, on peut s'éliminer l'un l'autre, il vaut mieux qu'on se parle avant. Bon, alors, on commence à rétablir ça. Et il va y avoir un représentant pour ces négociations, pour la remise à jour de relations diplomatiques normales entre la Fédération de Russie et les États-Unis. Chacun va désigner un négociateur pour aller dans les détails. Combien de personnes en ambassade, qu'est-ce qu'ils font, etc. Quels sont leurs pouvoirs, quels sont leurs moyens, etc. Bon. Et on va parler de rétablissement de relations d'information, en particulier de l'usage du système SWIFT. Le système SWIFT, c'est un système international qui permet les échanges économiques. Donc je paye une facture, j'achète quelque chose et tout, par des voies électroniques, dont la Russie a été écartée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un acheteur russe qui voudrait acheter de la marchandise en France, par exemple, ne peut pas le faire. Donc la Russie a été coupée du monde occidental par décision unilatérale des États-Unis. C'est ça qui va sauter, c'est ça qui est en train de se transformer. Après qu'on en vienne à un moment donné ou à un autre de parler de la guerre d'Ukraine, c'est évidemment très très probable. Mais ce n'est pas ça qui est le cœur de la négociation, enfin c'est le cœur de la rencontre, c'est ça.
De toute façon, on ne peut pas traiter le problème directement
mais bien à chaud,
c'est pas possible.
Roselyne, et sans les protagonistes principaux, parce qu'il faudrait qu'il y ait au moins l'Ukraine.
Exactement. Donc c'était ça, on rétablit des relations diplomatiques normales, après on a une grande variété de sujets à traiter, quand les choses seront normales on pourra se parler diplomatiquement, avant d'appuyer sur le bouton pour envoyer des missiles. Bon, c'était ça le but, et donc de ce point de vue là on peut considérer que la réunion de Riyad a été une réussite, et pour que Lavrov qui est très économe de ses paroles dit « enfin ils nous ont écoutés ». Bon, ça en dit très très long sur l'état de dégradation des relations avec l'administration Biden en particulier. Et puis, c'est sous Trump 1, c'était la même chose, puisque le fait de retrait, de sortir du traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, c'était du même tonneau. Tout ce qu'ils ont fait, enfin, tout ce qu'a fait Trump numéro 1, c'était dans la même veine. Hein. Ça aurait pu être Obama qui le fasse ou Clinton, c'était vraiment du même acabit. Voilà pour cette réunion de Riyad. Alors effectivement, alors après, les Européens s'énervent et les Ukrainiens s'énervent, surtout les Européens, en disant « Ah oui, mais ils ont parlé de l'Ukraine, alors que c'est pas vrai qu'ils ont parlé de l'Ukraine, hein, et on n'y est pas. » Mais c'était pas le sujet. Le sujet, c'était le rétablissement de relations diplomatiques normales. J'insiste sur le fait que la Chine et les États-Unis ont des relations diplomatiques normales. Donc il n'y avait que la Russie qui était soumise à cette punition-là. Il n'y avait pas, la Chine. La Chine ne l'est pas. Aucun autre pays ne l'est. Bon. Et donc on en revient à la suite des événements relatifs à l'Ukraine. Donc immense réaction immédiate quasiment à l'annonce de la réunion de Riyad. Le jour même, Macron réunit ce qu'il a choisi de représentant de l'Europe, c'est-à-dire 7 pays sur les 27, ce qui est quand même pas tout à fait représentatif, et il dit « On a été mis dehors des négociations sur l'Ukraine, c'est pas impossible, il faut qu'on réagisse, etc. » Bon. Alors, c'était faux, puisqu'il n'était pas question de ça. Ça allait venir, ça viendra, hein, mais il n'était pas question de ça. Bon. Échec total, personne ne le suit, il s'énerve, il produit, alors je ne sais pas si c'est le jour même ou le lendemain, une vidéo pour ses réseaux sociaux qui passe sur TikTok où il est dans un état lamentable. Anonant, enfin, tu l'as regardé, Roselyne, je crois, la vidéo. Bon, il est dans un état très bizarre, en pleine nuit, manifestement, tout seul dans un bureau, comme s'il parlait à ses copains. Très, très bizarre. Bon. Et pas au mieux de sa forme, en plus. Au point de présenter une carte de l'Ukraine qui présente à l'envers, etc. Bon, fait de la géopolitique. Et il dit, alors moi j'ai retenu, il dit quand même, nous sommes à la frontière de la Russie. Ah bon ? Alors, les habitants de Brest ou ceux de Strasbourg, tu sais, c'est quoi ce discours ? Le président dit qu'on est à la frontière de la Russie. Il doit pas être très très bien. Il a mal dormi, il y a un truc. Bon. Ça, c'était le début. Alors, devant le premier échec, donc les Européens disent « Oh là là, dans quoi ils nous emmènent ?» Il refait une autre réunion, il en invite d'autres, et il finit par trouver un allié en la personne du Premier ministre britannique.
Oh, ça a toujours été.
Voilà, ça a toujours été. Parce que lui, alors, il est sorti de l'Europe, mais en fait, il est beaucoup plus proche des positions de Macron que les autres Européens. Ce qui va l'amener au voyage qu'il a fait hier, mais j'y viendrai tout à l'heure, le voyage qu'il a fait hier à Washington. Où il est revenu, il est revenu aujourd'hui.
Ouais.
Il paraît qu'il est revenu.
Oui, mais...
bon. Donc voilà le climat, c'est-à-dire les États-Unis et la Russie, j'insiste, n'ont pas parlé de l'Ukraine. Ils en parleront, bien entendu, ça viendra. Ça viendra pas forcément très vite, parce que la position de Trump consistant à dire « bon, il faut régler ça dans quelques semaines », ça consiste surtout à dire « je ne veux pas être celui qui aura fait le Kaboul numéro 2 ». Qui aura tiré les enseignements d'un conflit dans lequel on n'a pas perdu grand-chose, si ce n'est un peu d'argent, mais je ne veux pas porter la charge d'un échec militaire. Donc, dire, arrangez-vous sur le terrain, entre Ukrainiens, entre Russes et tout, moi je n'y suis pour rien. Alors, il y est pour rien quand même.
Il est pour
un peu pour quelque chose, mais il veut se blanchir. Et puis, il est dans sa phase donc, où tout vient des démocrates, tout le mal vient des démocrates qui ont fait tout faux. Et donc, c'est forcément les démocrates qui ont mal goupillé l'affaire, mal géré le conflit ukrainien. C'est de leur faute. Et moi, je ne veux pas tirer les enseignements de leur échec. C'est pas le mien, c'est le leur. C'est pour ça que, surtout...
Il a dit, dans une semaine, j'aurai réglé le problème. Oui. Pas besoin de 3 ans.
Voilà, c'est ça. Bon, on verra. On verra, parce que c'est pas si simple que ça. Parce qu'il s'agit pas... Et là, si on pourra revenir sur la position de la Russie, il s'agit pas d'un cessez-le-feu. Il s'agit d'un traité... avec des signatures, avec des clauses pour ceux qui ne respectent pas les signatures et tout. Il ne s'agit pas de régler le problème pour 6 mois, il s'agit de régler le problème pour le siècle peut-être, hein, pour longtemps en tout cas.
Excusez-moi, il le fait exprès, Macron, de ne pas comprendre que cette réunion, ça n'était pas une réunion pour régler le problème.
Bien sûr, bien sûr,
il le fait exprès.
Bien sûr.
D'accord.
Bien sûr, il le fait exprès parce qu'il a dans cette idée, bien qu'il ait subi des échecs là, toute la semaine par rapport à dans ses relations avec ses petits amis européens, il a montré ce qu'il était en train de préparer hier à Washington.
C'est beaucoup d'échecs avec la Russie.
Ah ben bien sûr, oui. Bien sûr.
C'est pour cette raison, voilà.
Alors oui, je viens si tu veux là-dessus pour répondre à ton interrogation. Qu'est-ce qu'il fait hier à Washington ? Alors, d'abord on a écrit que Trump avait invité Macron et Starmer, le Premier ministre britannique, en même temps. Ce qui s'est avéré inexact. Hein, puisqu'en fait Macron était hier et Starmer vient que demain, enfin ils ne se sont pas vus. Hein, bon. Donc le point important, c'était Macron. Pourquoi c'était le point ? Alors, je m'arrête un peu sur la visite de Macron hier à Washington. Parce qu'il faut l'avoir regardé d'assez près. J'avoue que j'ai passé un certain nombre d'heures pour tout recoller, pour bien comprendre. Macron arrive, donc il a dû voler pendant la nuit, le matin, il fait jour, devant la porte officielle de la Maison-Blanche. Bon. Il sort d'une voiture qui brûle une voiture de l'ambassade, comme s'il sortait d'un taxi. Il n'y a personne pour l'accueillir. La porte, on lui ouvre. Bon, on a dû penser que c'était lui. C'est tout. Il arrive comme si... Voilà. Voilà. Non, ça c'est la première vision. Pourquoi ? Parce que Trump est là. Il sait que Macron va arriver. Mais il est en train de faire autre chose. Trump est occupé par un discours sur... il a réuni les conservateurs des États-Unis. Donc c'est un groupement d'associations conservatrices, proches du Parti républicain, mais plus que ça. Et dans ce discours qui mérite d'être regardé... Alors c'est bref à la manière de Trump, c'est-à-dire il a parlé une demi-heure. Mais dans cette demi-heure, Trump s'avère comme un nouveau Mussolini. Affreux, affreux, inquiétant. Avec... Tout, vraiment le dictateur fou, presque, j'allais dire, la bave aux lèvres, les grands cris, les grands gestes et tout, voilà. Bon, très, 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 très inquiétant. Alors, comme c'était le numéro qu'il était en train de faire, parce que là, il soignait son électorat et les éléments les plus durs de son électorat, il ne se préoccupait pas de Macron. Et après, on a droit à une deuxième scène d'accueil, donc... Devant la même porte, exactement le même cadrage avec le même caméraman qui est là, on voit Macron ressortir de la voiture et là, il y a Trump. Donc tout ça, c'est une comédie montée. Et là, Trump l'accueille, on se serre la main. Non, Trump serre la main de Macron pour que Macron ne le caresse pas. Une nouvelle fois. Hein, parce qu'il connaît l'oiseau. Il connaît l'oiseau. Et alors après, on a droit à une séance où chacun parle à son tour. Alors Macron, bien sûr, parle beaucoup plus que Trump. Macron, il n'arrête pas quand il est lancé. Il bavarde. Mais ce qui ressort d'important, et c'est ce qu'il faut que tous les Français comprennent, c'est que ce qui s'est passé hier à Washington, c'est que Trump a donné délégation à Macron et à ceux des Européens qui voudront bien le suivre de continuer la guerre d'Ukraine pour ne plus avoir lui à s'en mêler. Vous avez compris ça.
Et affaiblir l'Europe.
Voilà. Au passage, l'Europe va s'affaiblir, va y mettre beaucoup d'argent. Donc, c'est déjà dans le budget 2025 de Bayrou, ça. Hein, plus 10% pour la défense et moins pour les autres. Hein. Bien. Bon. Donc, c'est ça qui a été adopté hier par Trump. Il a dit parfait, allez-y les petits. Et d'ailleurs, c'est un discours qu'il avait tenu avant. Il avait dit mais moi, j'en ai assez de payer. Je ne veux plus payer. Hein. Donc, vous payez, vous. Alors, faites vos affaires avec Zelensky, faites vos affaires avec Poutine.
Mais allez. Quel est l'intérêt pour Macron de continuer ça ? Je ne comprends pas.
Ouais. Mais alors, j'en suis à me dire, dans quel état mental il est ? Dans quel état mental il est ? Est-ce qu'il se prend pour Napoléon IV ? non, mais on peut effectivement Napoléon. S'inquiéter. Et qu'est-ce qu'il y a alors ? Quels sont ? Alors, c'est là qu'il y a plus grave. Est-ce qu'il y a en France des forces politiques qui sont capables de dire « Arrête-toi ! Arrête !» Et on ne les voit pas. Hein ? Je suis désolé qu'on soit là, quatre chats, Radio Galère, Radio Libre, pour dire « Mais est-ce qu'il y aura enfin des Français qui vont dire « Arrêtez-le ! » Arrêtez-le. »
Mais Trump lui aurait fait des promesses, peut-être, en lui demandant de jouer ce rôle-là ?
Non, enfin, je pense qu'il les attendait. Il les attendait puisque dans la mesure où Trump dit « Moi, j'ai assez claqué d'argent, en gros, en Ukraine, j'arrête.
Hein. » Il a dit « Il faut faire la paix, voilà. Carrément. Bon. »
Et il a dit « Je te confie le truc, fais-en ce que t'en veux. Ouais. Hein, voilà. Fais-en ce que t'en veux, à tes frais. Voilà. Je ne mets plus d'argent dans la mécanique ukrainienne. » C'est ça l'important. Et ça, il faut que tous les citoyens français, françaises qui nous écoutent, se mettent bien ça dans la tête. Il y a eu passation de pouvoir sur la guerre d'Ukraine entre Trump et Macron. Trump, il veut surtout plus s'en mêler. D'abord, il dit « ça m'a coûté cher, qu'est-ce que ça m'a rapporté ?» Alors, comme pour l'instant, ça ne m'a rien rapporté, on en revient au personnage Trump, le Mussolini, c'est-à-dire « je veux mordre, je veux une proie hein. ». C'est bien beau, j'ai claqué, il dit 350 milliards de dollars, je ne suis pas allé compter au dollar près. J'ai déjà, les États-Unis, nous avons dépensé 350 milliards de dollars pour l'Ukraine, ça ne nous a rapporté rien pour l'instant, rien. Alors effectivement, nos industriels ont vendu des missiles, ont vendu des avions, etc. D'accord, mais au fond, ça ne nous a pas rapporté. Maintenant, je veux un bénéfice. Je suis un milliardaire, n'oubliez pas, je veux un bénéfice. Et c'est là qu'arrive la fameuse affaire des terres rares dont on a entendu parler. Ouais. Bon. Alors il dit au gouvernement ukrainien, moi je veux que vous me signiez un papier en disant que tout ce que vous avez comme richesse m'appartient à moi. Et donc, j'en ai pour mes 350 milliards de dollars. Quoi. Alors, il a commencé par les terres rares, et puis ça s'est avéré ne pas tenir le coup, puisqu'en fait, les géologues, du service de géologie des États-Unis, ont dit, mais il n'y en a pas, ou il y en a très très peu sur le territoire ukrainien. Le peu qu'il y a est même du côté russe. Bon, ça ne vaut pas le coup. Par contre, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a d'autres minerais, il y a d'autres métaux, etc. Il y a du gaz, un peu, il y a du pétrole, etc. Donc, prenez tout. Et maintenant, ça y est, il a dit, je prends tout. Hein, tout m'appartient. Bon. Et il demande à Zelensky de dire « signe-moi ça ». Signe-moi ça. Bon. Zelensky n'a pas encore signé, parce que Zelensky est un peu gêné aux entournures, parce que Zelensky apparemment avait déjà signé la même chose avec les Anglais l'année dernière. Ça, c'est très très intéressant à suivre. Là, alors, on s'aperçoit qu'il s'est passé des choses assez étonnantes, mais pas si étonnantes que ça, parce que, rappelez-vous, qui a relancé la guerre d'Ukraine ? C'est un certain Boris Johnson. Rappelez-vous que quelques semaines, je crois que même une semaine après le début de l'opération militaire spéciale russe, Zelensky lui-même accepte des négociations à Ankara. Hein. Ces négociations ont lieu. Et il y a un protocole d'accord qui est signé entre les deux délégations, la délégation russe et la délégation ukrainienne. Et M. Johnson arrive comme un fou. Surtout pas, il faut continuer. Donc on est à un point très très important de cette compréhension de la guerre d'Ukraine, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les Anglais qui ont mis le feu et qui ont dit qu'il fallait que ça dure. Et probablement, les États-Unis ont été un peu surpris de cette position. Et c'est très très intéressant parce que c'est probablement une des premières fois dans l'histoire où les Britanniques font une erreur par rapport à leurs amis d'outre-Atlantique, c'est-à-dire font une politique qui ne convient pas à Washington. C'est très très important à suivre. Ça veut dire qu'il y a, on a vécu, et ça n'a pas été bien expliqué, mais un divorce entre la position britannique et la position des États-Unis, qui ramène à toute une histoire ancienne, parce qu'ils n'ont jamais été tout à fait d'accord sur tout. Je rappelle que même dans des circonstances qui sont respectables, quand Churchill se défend tout seul contre Hitler en 40-41, il est tout seul. Hein. Il n'y a personne, et les États-Unis le regardent, on verra bien si tu t'en tires. Bon, on envoie des chèques, on envoie un peu de matériel, mais c'est tout. Si tu t'en tires, tant mieux, si tu t'en tires pas, tant pis. Nous, on est loin, on ne craint rien, et on viendra quand il y aura du bénéfice à faire sur le terrain. Car c'est ça la mentalité fondamentale des États-Unis. Je viens quand je peux ramasser, faire des bénéfices sur un conflit. Alors je viens avec les gros moyens, hein, vous avez tous les images, le 6 juin 44 et tout le temps, et y compris la bombe atomique sur Hiroshima, mais je ne viens que quand je peux me remplir les poches. C'est ça l'impérialisme, c'est ça.
En revanche, je ne comprends pas, Zelensky aurait négocié avec les Britanniques les terres rares.
Ouais.
Pourquoi est-ce qu'il voudrait continuer la guerre alors ?
Ah.
En toute logique, ils devraient l'arrêter.
Et oui, mais maintenant, ils sont pris. Non, les Britanniques sont pris au piège, c'est-à-dire qu'ils voient que les États-Unis ne les suivent pas, mais les États-Unis veulent les terres rares à la place. Ils disent à Zelensky, tu as signé avec eux, mais eux, ils ne comptent plus. C'est ça que c'est là qu'est le divorce britannique-États-Unis. Hein. Tu as signé avec eux, mais eux, on s'assoit dessus, on s'en moque de ce qu'ils sont. Hein. Et donc, c'est pour moi, c'est moi. Et moi, alors, il dit, parce que moi, j'ai mis plus d'argent que les autres dans l'opération. Et donc, je vais être mieux rétribué de ma mise, 350 milliards de dollars. Alors, on en est à dire, alors, que fait Zelensky, là, au milieu ? Mais Zelensky, il sait énormément de choses. D'abord, il sait qu'il a été mis en place. Je rappelle quand même l'élection de Zelensky à la présidentielle ukrainienne. C'est quand même un morceau d'anthologie. C'est-à-dire qu'il y a un coup d'État en 2014, en février encore, toujours au 24 février, un coup d'État à Kiev, donc sur la fameuse place dite du Maïdan, la grande place centrale. Coup d'État qui est organisé, orchestré par les États-Unis, y compris en présence de la vice-ministre des Affaires étrangères états-unienne qui est sur place et qui distribue des sandwichs et des hamburgers aux manifestants contre le régime. Bon, donc, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et puis, on connaît l'histoire de la fameuse communication téléphonique qui a été interceptée, où elle dit « voilà le gouvernement qu'on va mettre, c'est des amis, etc. » Et on fait tomber le président légitimement élu qui s'appelle M. Yanukovych. Alors on le fait tomber, non pas facilement, parce qu'il se défend en disant « j'ai été élu ». Et puis quand il s'aperçoit que les manifestants sont en train de venir mettre le feu au siège du parti où il est, et qu'il va probablement y laisser la peau, il saute dans une voiture et il s'en va. Il sauve sa peau, mais in extremis. Comment ça s'est déroulé? Donc là, Madame Nuland était là pour faire monter la pression. Et puis, à un moment donné, il y a des tireurs d'élite qui sont quelque part cachés dans une fenêtre à un étage d'un hôtel, qui tirent indistinctement dans la foule, en tuant à la fois les policiers chargés du maintien de l'ordre et les manifestants. Et là, donc, c'est la mêlée générale, et ceux qui voulaient qu'il y ait du désordre se mettent à mettre le feu au bâtiment officiel. Et c'est le moment où M. Yanukovych s'en va. Et à la place... À la place, on a un gouvernement dont les noms ont été sélectionnés par Mme Nuland, qui a même donné des noms au téléphone à l'ambassadeur M. Piat, qui est sur place. Oui, lui, on ne le veut pas, il faut que ce soit lui le président, lui le ministre, etc. Elle va même à dire, s'agissant du candidat, alors il y avait un candidat de l'Allemagne pour être le chef de l'Ukraine du coup d'État, qui s'appelle M. Klitschko, qui est donc un ex-championnat du monde de boxe des poids lourds, donc un géant avec une grosse force de frappe. Et dans son entretien téléphonique, Mme Nuland dit à Piat, l'ambassadeur, dit « Non, non, sûrement pas ». Et elle dit, alors je le dis en français, « Niquer l'Union européenne hein ». Ça veut dire quoi? Oui. Hein, c'est pas l'Union européenne, c'est nous qui gérons l'affaire. Hein. « Fuck the EU », elle le dit. Bon. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il arrive un gouvernement donc, à l'issue d'un coup d'État fomenté, organisé et financé par les États-Unis, d'où sort un nouveau président qui s'appelle M. Porochenko. Alors M. Porochenko, c'est pas un enfant de cœur, c'est le mania du chocolat. Alors import-export de chocolat, biscuits au chocolat, tout ce que vous pouvez imaginer. Un milliardaire qui s'est enrichi et qui continue à le faire. Et puis au bout d'un certain temps, il y a l'épisode des accords de Maïdan. Et on s'aperçoit, enfin surtout de côté russe, on s'aperçoit qu'effectivement, les accords de Minsk, ce n'est pas pris au sérieux. Et on en aura la confirmation éclatante quand Mme Merkel, suivie par M. Hollande, diront « mais les accords Maïdan, ce n'était pas pour arriver à un accord ». L'accord consistait à dire « on donne une autonomie importante aux régions russophones de l'Est ». C'était tout. Ce n'était pas plus que ça, les accords de Maïdan. La Russie n'avait pas dit « ça m'appartient, rien du tout ». Alors, les populations de l'Ouest, de l'Est, du Donbass, avaient dit « Non, non, mais nous, on aura la paix que quand on sera russe, parce que là, c'est pas possible. Hein. » Mais eux, ils n'avaient pas confiance. Mais la position russe n'a jamais été celle-là. Elle était de dire « S'ils ont de l'autonomie, ça ira, on essaiera de les faire respecter. Bon. » Ça n'a pas eu lieu. Bon. Donc, les accords de Minsk n'étant pas respectés, il faut trouver une porte de sortie et on trouve un motif pour dire il faut une nouvelle élection de président de la République et on trouve un candidat qui s'appelle M. Zelensky, qui n'est pas un politique, donc c'est un comédien dont les sketchs sont d'un goût, bon, chacun pense ce qu'il en veut, peu importe, mais il est connu, il est populaire. Ouais. Il est populaire et il se présente comme le candidat de la paix retrouvée. De la paix retrouvée, écoutez bien. Et donc, il est quasiment plébiscité. Il a été élu avec plus de 70% des voix. Alors, c'est facile, il était connu. Tous les Ukrainiens l'avaient vu une fois ou l'autre. Ils avaient bien ri. Il était, à la limite, sympathique. Plus que Porochenko, qui était un gros lard. Voilà. Bon. Et donc, M. Zelensky est élu pour faire la paix. Alors, évidemment, il est élu pour faire la paix, mais ça ne convient pas du tout à ceux qui ont monté l'opération de coup d'État. Et donc, petit à petit, il va être pris en main, et puis il va surtout être encadré par les néo-nazis qui sont là de service, qui étaient déjà là sous Porochenko, et qui vont lui dire « Petit, maintenant, c'est ça qu'il faut faire. » Alors, Qu'il soit néo-nazi, j'en sais rien, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais il obéit, la place est bonne, et il va devenir effectivement un véritable danger public à lui tout seul. Et puis il va aller faire la quête en disant « oui, mais c'est bien joli, parce que l'armée russe, c'est quand même pas rien ». Alors au début, ça paraît pas très très inquiétant, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les premières semaines, après l'échec donc, de la négociation d'Ankara, l'armée russe, qui, il faut voir que l'armée russe, elle n'avait pas combattu depuis des dizaines d'années, un petit peu en Tchétchénie, mais c'était un tout petit terrain de guerre. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'armée russe va progresser dans la lutte militaire. Et elle va progresser d'une façon extraordinaire. C'est que maintenant, aujourd'hui, elle est difficile à battre par tout le monde. Ce qui explique d'ailleurs la position extrêmement prudente de Donald Trump en disant « d'une part, j'y vais pas pour des raisons d'image, c'est-à-dire je veux pas être celui qui subit un échec, mais deuxièmement, j'y vais pas parce que je suis sûr que je ne gagnerai pas cette guerre ». C'est-à-dire que la Russie a démontré des capacités à la fois industrielles, techniques et de gestion de la zone de front et des combats qui fait qu'aucune armée aujourd'hui n'a envie de s'affronter à l'armée russe telle qu'elle est devenue, ce qu'elle n'était pas au mois de février 2023, loin s'en faut. Mais elle est devenue comme ça parce que l'épreuve des faits est là. Alors, donc, M. Zelensky change complètement et puis il va faire la tournée. Alors, il a été reçu comme une vedette mondiale partout, dans tous les parlements, à Paris, à Bruxelles, à Washington, etc. Et chaque fois, il tendait la main, il faisait la mendicité, je veux de l'argent pour m'aider à battre les Russes. Et l'argent coulait à flot. Alors on en est arrivé à un point où maintenant, Trump dit, l'argent que nous on a donné, il faut nous le rendre. Et Zelensky n'est pas prêt à le rendre, parce qu'il dit, et peut-être là il dit vrai, il dit, mais cet argent, quand je l'ai demandé, on me l'a donné. Et donc, je ne vois pas pourquoi. Ce n'est pas des prêts que j'ai souscrits, c'est des subventions que j'ai eues. Ça, c'est son discours. Alors, je prends Zelensky pour ce qu'il est. Mais c'est sans doute vrai, parce que ça s'est passé, alors, et c'est ça, qui va devenir intéressant, ça s'est passé dans des conditions où le Congrès des États-Unis, tellement content d'ennuyer la Russie, je dis le mot simple, d'ennuyer la Russie, de faire des difficultés à la Russie, donnait largement, mais après, les circuits de cet argent sont mal connus. Alors, ils sont mal connus pour ceux qui ne veulent pas les connaître. Car quand M. Trump dit qu'il y a une partie de cet argent qui a été versé à l'Ukraine, à Zelensky, qui s'est perdu en route, et que Zelensky dit en gros la même chose, mais je n'ai pas reçu tout l'argent que vous annoncez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a deux menteurs qui se parlent. C'est-à-dire que aussi bien Trump que Zelensky savent qu'une partie de l'argent qui arrivait qui a reparté. Parce que pourquoi on a trouvé des conseillers ukrainiens avec des armes dans le Mali en train de monter des embuscades pour l'armée malienne? Pourquoi on a trouvé des conseillers militaires au Soudan dans l'armée dissidente du régime soudanais? Pourquoi on a trouvé des armes livrées à l'Ukraine en Syrie, à Idlib? Pourquoi tout ça? Parce que tout ça, c'était cousu de fil blanc. L'Ukraine servait de point d'alimentation au terrorisme international sans qu'il y ait besoin de factures. C'était ça aussi. Alors ça, Trump le sait, et ça, Zelensky le sait aussi. Et il le sait tellement qu'au fond, il est parti pour se défendre, parce qu'il dit, moi, je sais tous les dessous. Et il sait même, j'insiste là-dessus, parce que ça a été dit et c'est écrit maintenant, il sait même qu'avant que les sommes qui étaient votées au Congrès partent de Washington, les dirigeants du Parti démocrate prenaient dans la caisse eux-mêmes Madame Pelosi, ce président de la Chambre des représentants et d'autres dont les noms sont cités. Donc M. Zelensky, on peut bien lui dire « va-t'en », et c'est ce que Trump voudrait essayer de faire croire, mais il sait tellement de choses sur les vilainies et sur les tricheries et sur l'alimentation du terrorisme international par les États-Unis qu'effectivement, il ne faudrait pas trop qu'il parle non plus. Hein. Alors est-ce qu'il va avoir un accident? Je ne sais pas. Mais tu as un souci?
Non, je vais juste...
Ok. Ok, ça va. C'est une question de fin de l'émission. Hein. Donc, remettons bien ça à sa juste place. Hein. Il s'agit de deux bandits, un petit bandit et un gros bandit, hein, Mais oui, c'est ça, un petit bandit et un gros bandit, qui chacun connaissent les dessous des affaires, mais Trump en est arrivé, il a battu les démocrates, et il en est arrivé à faire croire, mais plus personne, personne ne veut le croire, que lui, son équipe est propre, et que les autres ne l'étaient pas. Alors ça, personne ne le croira, personne ne le croira, parce qu'il a un passé de milliardaire, il a un passé de milliardaire qui a fait des faillites, il est toujours en train d'essayer de récupérer de l'argent et d'en prendre plus que ce qu'il a eu au début. Donc, enfin, l'image de Trump honnête venant nettoyer le marécage me fait beaucoup, beaucoup sourire. Parce que, alors, ce qui se passe, et ça nous amène à la question des États-Unis, ce qui se passe aux États-Unis, d'une part, Trump tient un discours hyper conservateur, je dis mussolinien, à ses amis politiques et à la population qui le soutient. D'autre part, ce qui se passe, c'est que, et on va le voir puisque l'opération doit durer, les fameux 60 jours, on a dit les fameux 60 jours où on arrête tous les crédits et tout, ça consiste effectivement à extraire du sol de la société des États-Unis tous les éléments qui ont travaillé pour Biden et son équipe. Alors on met à la porte des fonctionnaires, on met à la porte des diplomates, on met à la porte des militaires, des généraux, le chef d'état-major, des choses comme ça, on les met à la porte. Il ne faut plus qu'il y ait un seul ami des démocrates qui soit à un poste de responsabilité dans l'administration. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il veut mettre les siens à la place. C'est-à-dire, revenons bien à cette situation des États-Unis, nous avons affaire à une situation de transition entre deux gangs de voyous. Un premier gang qui a perdu... Et Biden, alors ceux qui l'ont entouré portent une lourde responsabilité parce que, après tout, il se serait décidé avant l'épisode calamiteux de Kamala Harris à faire quelque chose ou à trouver un candidat de qualité, ça ne se serait pas terminé si mal pour eux. Bon, donc ce gang-là a perdu. Et c'est lui qui a envoyé 350 milliards de dollars. Mais le gang qui veut prendre la place veut toute la place. Ils ont perdu. Hein, donc maintenant, nous, on va tous les éliminer. Il ne faut plus qu'il y ait aucun. Je ne parle pas des employés de base dans les administrations fédérales. Il ne faut plus qu'il y ait aucun responsable à aucun niveau, dans aucune institution qui soit en capacité de continuer à défendre les intérêts de la bande démocrate. Voilà. C'est ça le rapport de bande, le rapport de banditisme général. C'est-à-dire, ça me fait penser tout à fait, je pèse mes mots, au rapport entre un gros proxénète et le petit qui arrive et qui veut prendre la place. Il faut nettoyer le trottoir. C'est ça. Ne rêvons pas sur le Trumpisme, le Bidenisme et tout. Il s'agit de deux bandes de voyous. À tel point d'ailleurs que Jeffrey Sachs, que je mentionnais tout à l'heure, qui n'est pas du tout un gauchiste effervelé, mais qui dit « moi, je ne peux plus voter aux États-Unis ». Je ne peux plus voter, parce que lui, il est face à cette réalité. Et il les connaît personnellement. Il a travaillé dans leur bureau. Il a discuté avec eux. Donc il sait très bien qu'il a affaire à deux bandes de voyous qui s'affrontent. Alors l'affrontement n'est pas si simple. L'affrontement n'est pas si simple parce que il y a autour de Trump un certain nombre de super voyous, c'est-à-dire ceux les porteurs de fusils qui tirent plus vite que leur ombre. Le premier porteur de fusil, c'est évidemment Elon Musk. Alors cet Elon Musk, il en est arrivé, et ça je m'arrête là-dessus parce que c'est très très intéressant, il en est arrivé à envoyer un mail à tous les fonctionnaires fédéraux. J'entends les fonctionnaires fédéraux, c'est ceux qui travaillent dans les administrations fédérales, donc au niveau de l'État des États-Unis dans son entier. En leur disant, je veux d'ici lundi prochain un rapport sur ce que vous avez fait pendant les deux semaines écoulées. Si je ne reçois pas un rapport sur votre activité pendant les deux semaines écoulées, vous êtes viré. Ça veut dire que vous n'avez rien fait. Je vous vire. Ça, c'est des méthodes de gestion à la Elon Musk. Bon. Il l'a fait. Et il se trouve que le nouveau responsable du Pentagone a écrit à son personnel « Ne répondez pas à Elon Musk ». Le directeur du FBI, nommé par Trump, a écrit à son personnel « Ne répondez pas à Elon Musk ». Ah, ça veut dire que dans les bandes de voyous, celui qui a les dents trop longues et qui s'affronte au chef, puisque Trump c'est le chef de la bande de voyous, risque d'avoir des ennuis ou risque d'avoir une vie brève à son poste. Et là, il a eu un premier os, c'est-à-dire que c'est des gens nommés par Trump qui ont arrêté Musk dans une de ses folies. C'est une folie. On n'écrit pas à un employé de « qu'est-ce que vous avez fait ?» L'employé, il a un chef, etc. Bon. Donc la réponse a été claire et elle est venue de deux personnes mises en place par Trump lui-même. Donc vous voyez que dans les bandes de voyous, tout n'est pas simple. Tout n'est pas simple. On est très très loin de la démocratie, tout ce que vous pouvez imaginer. Tout n'est pas simple du tout. Voilà ce que je voulais essayer de brosser, parce qu'on a beaucoup d'autres sujets, mais essayer de comprendre ce qui est en train de passer. Donc, première conclusion, Macron et la délégation pour aller continuer la guerre et pour sauver Zelensky. Et Zelensky, lui, il a de la défense parce qu'il sait tout. Il sait tout. Alors, soit il prend une balle entre les deux yeux, mais il y aura peut-être quelqu'un qui le remplacera, soit effectivement, il tient comme ça. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Hein. Il répond à Trump.
Est-ce que tu ne crois pas, par exemple, envoyant des armées comme... Parce que là à mon avis, ils envoient ces troupes juste pour la sécurité, pour...
La question est de dire, effectivement, l'histoire de l'armée européenne, alors on ne sait l'armée européenne qui viendrait sur le terrain, alors on ne sait pas si c'est avant le cessez-le-feu, après le cessez-le-feu,
il n'y aura pas
de cessez-le-feu, ça peut être effectivement une espèce de casque bleu qui sort là, comme ils étaient au Liban, à peu près aussi utile qu'au Liban,
qui sert à rien,
que nous payons.
Et d'ailleurs, je ne sais pas, Poutine avait, d'après ce que j'ai entendu, il avait accepté,
il n'y avait pas de problème. Voilà, dès l'instant où on a clarifié les règles, on a défini des frontières, on a défini des règles du jeu, etc., vous pouvez avoir des types qui se promènent avec un casque bleu, ça les amuse. Enfin, c'est vous qui payez, c'est pas moi. Hein. Bon, non, ça, il avait accepté. Mais ça, on est déjà dans le détail d'exécution et c'est quand même pas tout de suite. On n'en est pas tout à fait là. Hein. Alors, parce que la guerre peut durer un petit peu, parce qu'il y a quand même déjà des soldats européens qui sont en Ukraine. Alors ça, on en parle moins. On sait qu'il y a eu un certain nombre de morts de la Légion étrangère dans un hôtel à Odessa, qui ont été visés par un missile russe. Et donc, il y a déjà des morts dans l'armée française qu'on va camoufler sous je ne sais quel prétexte. Il y en a eu d'autres à d'autres endroits. Et puis, il faut savoir que la conscription est arrivée à 18 ans et elle risque de passer à 16 ans parce qu'il n'y a plus de soldats possibles avec la nationalité ukrainienne. C'est un peu n'importe quoi. Bon, donc ça, on y reviendra au fil des semaines. L'affaire est loin d'être close.
D'être clair.
Il cherche à recruter en Côte d'Ivoire en ce moment.
Voilà. Alors en fait, je ne l'ai pas cité, mais effectivement, tout cet argent qui passait par l'Ukraine et qui repartait en Afrique, j'ai parlé du Mali et du fameux attentat, j'ai parlé du Soudan. Effectivement aussi, il faut savoir que l'ancien ministre des Affaires étrangères ukrainien, M. Kuleba, qui aujourd'hui... est réfugié à Sciences Po à Paris. C'est plus confortable et c'est plus tranquille. Passer son temps à ouvrir des ambassades nouvelles et puis à recruter du personnel pour aller combattre sur le sol, tu fais bien de le comprendre, sur le sol ukrainien. Parce qu'ils n'ont plus de personne et tous les Ukrainiens adultes qui ont pu fuir ont fui. C'est évident, il y a des Ukrainiens partout, partout en Europe et aussi aux États-Unis et aussi au Canada, etc. Tout ça, on le sait. Et donc, situation pas du tout réglée, c'est-à-dire que Zelensky n'est pas prêt de lâcher, et le conflit va durer, mais enfin, il peut pas durer très très longtemps, c'est-à-dire que ça va dépendre de la rapidité l'avancée des troupes russes.
Ça dépend, Zelensky, il sera pas épaulé par les Européens, ça c'est sûr.
Épaulé, si.
Parce que bon, donc, à mon avis.
Il n'en a pas pour très longtemps. Je pense que la Russie, très sagement, dit moi, je continue mes opérations militaires, je me suis engagé à rien du tout. Il n'y a pas eu de négociation sur l'Ukraine. J'insiste là-dessus, il faut que les choses soient bien mieux claires. Et moi, j'avance et j'arrive à prendre la place que les Ukrainiens voulaient me prendre. J'arrive à élargir, à élargir le territoire de la Russie à ce qui était ce qu'on appelait la Nova Russia, la Nouvelle Russie, qui est l'ancien territoire soviétique de l'époque. Bon. Il restera un morceau quelque part dans l'Ouest, on verra bien ce qui lui arrivera. C'est en gros ça qui se passe. Mais il faut quand même aborder d'autres sujets que je n'ai pas abordés. Là, j'ai voulu essayer de vous retrouver dans ce mélange très très compliqué d'événements. Pour parler des élections en Allemagne. Alors, ce n'est pas du tout extérieur à ce qui nous occupe, puisqu'il y a eu donc des élections législatives en Allemagne qui ont amené donc la victoire du conservateur, donc les chrétiens-démocrates, associés aux sociaux, la CSU bavaroise, c'est la même chose, CDU, CSU, qui donc sont arrivés en tête du scrutin. Mais dans des conditions pas glorieuses, puisqu'au fond, avec 28% des voix, ce n'est pas un score, et de toute façon, il faut arriver à trouver 50% des voix, puisqu'il faut constituer autour de ce leader qui va de soi, c'est lui qui est arrivé premier, une majorité parlementaire. Pour faire la majorité parlementaire, alors, ils ont d'emblée exclu l'AFD, donc le parti d'extrême droite, ou présenté comme tel, qui a, alors, regardez les cas,
qui a pas mal de...
Alors, grâce à l'intervention de M. Elon Musk, qui est venu faire campagne pour le parti d'extrême droite, en disant, mais il faut les laisser accéder au pouvoir, c'était ça ton discours. Alors, ça correspond assez à la politique de Trump. La politique de Trump consiste à dire, mais les gens d'extrême droite, finalement, moi j'ai des positions d'extrême droite, j'en parlais en disant qu'ils ressemblent à Mussolini, moi je peux très bien travailler avec des partis d'extrême droite, ça il peut très bien. Mais il trouve un peu dommage qu'en Europe on ait un peu des réticences par rapport aux partis d'extrême droite, et c'est pour ça que M. Musk était venu faire campagne pour le parti AFD.
Ouais.
Alors ça n'a pas porté ses fruits totalement, encore que... L'AFD a quand même doublé son score d'une élection à l'autre,
exact.
Passé de 10 à 20%.
Oui.
Alors c'est déjà beaucoup, parce qu'on peut dire, peut-être le prochain coup, s'il double encore, il n'y aura plus beaucoup de monde pour s'opposer à eux. Et il faut savoir aussi que les votes, enfin les députés AFD, puisqu'il y a donc des députés AFD aujourd'hui, sont tous pratiquement venus de l'ancienne République démocratique allemande.
L'Allemagne de l'Est.
L'Allemagne de l'Est. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne de l'Est a été maltraitée par l'Allemagne de l'Ouest. L'Allemagne de l'Est, un beau matin, après la chute du mur de Berlin, on lui a dit, non, t'es avec nous, et puis il n'y a aucune négociation, vous êtes intégré à l'Allemagne, c'est comme ça, et on n'en parle plus. Il se trouve qu'ils avaient vécu une autre histoire, ils avaient aussi une situation économique relativement moins favorable que ceux d'en face, ils n'avaient pas de dollars américains, et donc il est resté un tiers de ce pays qui s'appelle l'Allemagne, qui passait pour le pays le plus riche de l'Union européenne, il est resté un quart de la population qui ne faisait pas partie des gens prospères. Et ça reste. Et puis, deuxième aspect sur lequel on n'a pas voulu insister, c'est que l'AFD était contre la guerre en Ukraine. Alors c'est peut-être une position d'extrême droite, je ne sais pas, mais eux, ils étaient contre, alors que le gouvernement de M. Scholz était pro-guerre, mais à un niveau pas possible. Bon. Avec en particulier une ministre des Affaires étrangères verte, Mme Baerbock, qui était d'abord inquiétante, mais qui voulait la guerre tous les matins. Comme quoi, les écolos peuvent être verts, et verts kaki même, verts de gris. Voilà, bon. Et donc, on ne va pas avoir le temps de parler de Nasrallah. Bon, un mot, si on en parlera quand même, un événement très très important. Bon, non. Dernière chose là-dessus, monsieur Merz, donc le nouveau chancelier futur, quand il aura réussi à faire sa coalition parlementaire, il va probablement reprendre, non pas Scholz lui-même, mais quelqu'un des sociaux-démocrates, puisqu'ils sont troisième parti en ordre de nombre de députés, peut-être des Verts, c'est pas impossible, et donc on va avoir une nouvelle ère.
Il n'était pas très bien apprécié, Scholz, pourtant.
Non, il était pas bon. Donc, dernière chose, la plus importante, monsieur Merz vient d'où ? Alors, on dit que c'est un politicien, c'est le chef du parti chrétien. Non, M. Merz vient de BlackRock. Il a été le représentant pendant des années du fonds d'investissement américain BlackRock. Et grâce à lui, une partie de l'industrie allemande est entre les mains des capitalistes américains. Bon, voilà, c'est ça la position. C'est ça la position. Et donc, en fait, on a un pro-américain à la tête de l'Allemagne qui aura des difficultés à avoir une majorité parlementaire. Voilà, ça... Premier point. Et puis on parlera des funérailles de Hassan Nasrallah, parce que ça veut dire que quelque part ailleurs dans le monde, en dehors de ce marécage européen, il y a des gens qui se mobilisent et qui ne s'inquiètent pas des simagrées et des comédies médiatiques de Macron, de Trump et des autres. Il y a des gens qui vivent pour un avenir autre sur la planète. Voilà. C'est là-dessus que je m'arrête.
Oui, je voudrais dire que Nasrallah, c'est une grande perte. Une personnalité la plus importante actuellement, même comme résistant au sionisme.
Tout à fait.
Il y a eu 1,5 million qui étaient présents sur l'enterrement, d'une part, et d'autre part, beaucoup d'ambassadeurs ont empêché de faire venir des ressortissants français, allemands, et en Amérique, d'ailleurs.
Tout à fait.
Bon. Donc c'est vraiment regrettable, et les médias n'en ont même pas dit grand-chose actuellement en France, et ça je le regrette beaucoup, et j'ai dit, Nasrallah, c'est une grande personnalité que j'ai appréciée beaucoup, et surtout, lui, Jamal Abdel Nasser, Boumediene, Les vrais combattants. C'est des vrais combattants qui ont combattu l'impérialisme et surtout le sionisme. Allah yarhamou, Allah yarhamou.
Merci Habib. Voilà. Merci Habib.